Radio Prague, les informations.
Bonjour à tous, à l'écoute de ce bulletin d'information. Au sommaire aujourd'hui, la SAC accuse les Tchèques de polluer l'Elbe, protestation contre la construction d'un aéroport international à Vodochody et début du festival de musique La Nuit Vénitienne, Benátska noc. Les autorités de la région fédérale allemande de Saxe accusent les Tchèques de déverser des substances toxiques dans l'Elbe, fleuve prenant sa source en Bohême et qui poursuit ensuite sa route dans le Länder. Le ministre de l'Environnement de Saxe, Frank Köpfer, s'est ainsi exprimé dans le tabloïd Bild pour déclarer qu'entre 2010 et 2013, il y a eu au moins 20 cas de pollution de l'eau du côté tchèque. Il s'agirait par exemple d'huile moteur ou de carbonate de potassium s'écoulant dans la rivière. Les autorités tchèques n'auraient pas pris la peine d'alerter les habitants et leurs homologues allemands. Le président de la social-démocratie, Bohuslav Sobotka, est persuadé que le président de la République, Miloš Zeman, lui accordera une chance pour former un nouveau gouvernement dans le cas où le cabinet d'experts de Jiří Rusnok, actuellement en place, n'obtienne pas la confiance de la Chambre des députés. Si le cabinet donc de Jiří Rusnok n'obtient pas la confiance lors du vote prévu pour le 8 août, le chancelier du château de Prague, Vladislav Ménage, affirme que le président de la République désignera très probablement la présidente de la Chambre des députés Miroslava Němcová, précédemment soutenue par le parti civique démocrate ODS. Toutefois, le chef des sociodémocrates, Bohuslav Sobotka, a souligné qu'il n'était pas judicieux de soutenir un membre du parti de la coalition douteuse et suspecte. À l'endroit même d'un aéroport civil actuel situé près de la ville de Vodochody, la société Penta veut construire un aéroport international où près de 35 000 départs et arrivées seraient enregistrés par an. Les municipalités situées aux alentours de la ville ne sont pas d'accord sur un éventuel entérinement de la documentation relative à l'évaluation de l'impact de l'élargissement de l'aéroport sur l'environnement. Les représentants municipaux ont indiqué ce lundi que la documentation en question présentait de nombreuses lacunes. Ce mardi, à Prague, plus de 300 opposants au projet ont discuté publiquement sur le futur de l'aéroport avec l'adjointe au ministère de l'Environnement Jaroslava Honová et ont fait savoir leur mécontentement quant à la date de cette réunion publique, fixée à un moment où la plupart des gens étaient partis en vacances. Jaroslava Honová a rétorqué que la discussion publique avait déjà été ajournée en raison des inondations du début du mois de juin. Toutefois, les représentants de l'investisseur Penta ainsi que Jaroslava Honová ont été hués par la salle qui avait appris la permission de vol de nuit, chose qui n'avait pas été prévue. Sur une durée de 4 jours, débute ce jeudi la 21e édition du festival Benátska noc, nuit vénitienne, organisée à Veset, près de la ville de Liberec, au nord de la Bohême. Plusieurs groupes slovaques seront au programme, tels que The Paranoid, Desmond, Miloš Birka et la Philharmonie Morave d'Olomouc ou Peter Beach Project. Parmi les artistes internationaux, citons le groupe anglais James, le groupe allemand Noah ou les groupes Nightwish et Sunrise Avenue, venus de Finlande. Près de 30 d'artistes tchèques sont prévus au programme, comme Monkey Business, Pražský výběr, Argema, David Koller ou Charlie Strait. Puis du football pour terminer. En allant s'imposer sur la pelouse du FK Žilina-Žďár, Sarajevo 2-1, le Viktoria Plzeň a validé son ticket pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. L'affaire s'annonçait pourtant compliquée pour le club de Bohème de l'Ouest, qui avait difficilement remporté le match aller devant son public 4-3. Mais mardi soir, les buts en première mi-temps de Tomáš Wagner et de Milan Petržela ont assuré aux Tchèques de pouvoir continuer à figurer dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Au 3e tour, ils seront opposés aux Estoniens de Kalju pour espérer participer au barrage, leur permettant d'accéder aux phases de groupe. Un petit mot de météo. Après plusieurs jours de grande sécheresse, des averses sont attendues sur l'ensemble du territoire ce jeudi, fête de tous les Jakubs. Des orages se feront plus présents en Moravie et dans la région d'Olomouc. Les températures restent élevées et aussi entre 25 et 29 degrés pour les maximales. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information que vous a présenté Denisa Tomanova. Restez à l'écoute pour la suite de notre programme avec Pierre Maignan.
Faits et événements en République tchèque. Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce magazine d'actualité. Merci à Denisa Tomanova pour son remarquable bulletin d'information. Au sommaire de ce mercredi, les journées de l'architecture populaire ont eu lieu le week-end dernier. Retour avec Julien Maurice sur cet événement qui met à l'honneur de nombreux villages tchèques et notamment de Bohême du Sud. Nous resterons ensuite dans cette belle région avec Jaroslava Gisubelova pour sa rubrique historique. Elle nous entraîne à la visite du musée de Josef Seidel, pionnier de la photographie tchèque. Mais tout de suite, retour retour sur une étude très attendue de l'Office tchèque des statistiques qui a présenté ses projections démographiques pour la République tchèque pour l'année 2101. Bonne écoute à tous et à toutes. Alors qu'il y a aujourd'hui environ 10,54 millions d'habitants en République tchèque, cette population pourrait tomber à 7,5 millions en 2101, et un tiers d'entre elles aura alors plus de 65 ans. Ce sont en tout cas les prévisions de l'Office tchèque des statistiques, dévoilées mardi à l'occasion d'une conférence de presse. Un bouleversement démographique auquel la société tchèque va devoir faire face. Les démographies déclinantes dans les anciens pays socialistes et dans de nombreuses autres contrées du vieux continent, telles que l'Allemagne ou l'Italie, avec des taux de natalité très bas et un vieillissement rapide des populations, sont connus et constitueront un défi pour ces sociétés au cours de ce siècle. Les données portant sur les prévisions démographiques en République tchèque pour 2101 et présentées mardi par l'Office tchèque des statistiques le confirment. À l'aube du 22e siècle, le pays aura ainsi perdu 3 millions d'habitants par rapport à sa population actuelle. Une information qui ne laisse pas insensible le sociologue Ivan Gabal, qui parle de chiffres de l'année.
Ce chiffre dit que selon les perspectives actuelles, nous pourrions être de 20 à 30% moins nombreux d'ici 90 ans, c'est-à-dire entre 7 et 8 millions. D'après moi, cette enquête a quelques aspects positifs, et notamment l'extrême augmentation de l'espérance de vie et donc de la qualité de vie. Il faut s'imaginer qu'actuellement, en République tchèque, l'espérance de vie est de 75 ans pour les hommes et de 80 ans pour les femmes. Elle sera vers la fin de ce siècle de 91 ans pour les femmes et de 85 ans pour les hommes.
Selon cette étude, la population tchèque devrait augmenter jusqu'en 2018, puis ne plus cesser de décliner. Pour l'instant, seule l'immigration permet à la République tchèque de connaître une croissance démographique légèrement positive, mais à l'avenir, elle ne devrait plus s'avérer suffisante. Pour Ivan Gabal, il faut mettre en place des politiques natalistes ambitieuses visant à inciter les Tchèques à faire des enfants. La période de transition vers l'économie de marché ayant vu une baisse phénoménale du taux de fécondité. Ivan Gabal souligne par ailleurs qu'il fait totalement confiance aux méthodes utilisées par l'Office tchèque des statistiques. Terezie Stiglerova, qui dirige la section consacrée aux statistiques démographiques, rappelle qu'il faut toutefois relativiser ces chiffres, qui, pertinents en 2013 afin de définir des politiques publiques, ne le seront certainement pas dans un siècle.
Plus on s'intéresse à un horizon lointain, plus la fiabilité de l'enquête diminue évidemment. Il convient également de réaliser que ce projet reflète l'état des connaissances au moment où il est réalisé, et donc est valable à cette époque. Pour prendre en compte cette baisse de fiabilité, plusieurs scénarios sont envisagés.
Toutefois, c'est la variante la moins optimiste en termes de croissance démographique qui pourrait être la plus proche de la réalité, si l'on en croit Terezie Stiglerova, mais aussi la démographe Jitka Rihtajikova. Celle-ci remarque ainsi que la projection médiane table sur un taux de fécondité de 1,56 enfants par femme, or ce taux s'est établi à 1,45 en 2012. Autre enseignement de cette enquête, le vieillissement accéléré de la population. En 2050, les centenaires seront déjà plus de 15 000 et pourront donc remplir un stade de taille modeste. En 2101, les personnes âgées de plus de 65 ans constitueront le tiers de la population totale. Un bouleversement de la pyramide des âges qui aura d'importantes conséquences sur la population active et sur les retraites. Jitka Rihtajikova précise.
Alors qu'on n'arrête pas de débattre sur le thème des seniors, combien seront-ils, comment vivront-ils? Eh bien, ce projet montre que leur nombre va augmenter jusqu'en 2060 et il diminuera par la suite. Cela signifie que les seniors, actuellement 1,7 million, seront 3,2 millions en 2060 et ce chiffre diminuera ensuite pour atteindre environ 2,5 millions. Cette baisse s'explique par le fait qu'il n'y aura alors plus de forte classe d'âge.
A proč bude klesat? Protože vlastně už tam nebudou ty silné populační ročníky.
Pour Jitka Rirtajikova, même une immigration massive n'y changerait pas grand-chose. Comme Ivan Gabal, elle recommande une politique nataliste, non pas pour que la population augmente, mais au moins pour rééquilibrer une pyramide des âges qui rendra impossible un modèle de retraite tel qu'il peut aujourd'hui exister. Dans le même temps, la population mondiale ne cesse de croître et selon les prévisions moyennes de l'ONU, elle pourrait atteindre 9,6 milliards d'individus en 2050. La question de la surpopulation de la planète se posera alors avec bien plus d'intensité. Les journées de l'architecture populaire ont eu lieu le week-end dernier à l'occasion du 200e anniversaire de la naissance du célèbre architecte folkloriste Pavel Bursa. Les organisateurs de cet événement ont souhaité attirer l'attention sur les sites ruraux précieux et la nécessité de leur préservation. 61 villages tchèques sont classés au patrimoine architectural national, la plupart d'entre eux se trouvant en Bohême du Sud. Un reportage signé Julien Maurice.
Maisons à colombages, fermes en pan de bois, façades baroques sont quelques-unes des multiples caractéristiques de l'architecture rurale en République tchèque. Pourtant, ce patrimoine reste souvent ignoré par les touristes étrangers et la plupart des Tchèques eux-mêmes. Les journées de l'architecture populaire organisées les 20 et 21 juillet dernier ont eu pour but de rendre hommage à l'ensemble des créateurs connus ou inconnus de ces œuvres folkloriques dans tous les recoins du pays. Pavel Boresh, membre de l'Institut national du patrimoine, souligne la richesse culturelle de ces bâtiments ruraux.
Il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas trouver dans les villes ou dans l'architecture religieuse classique. Elles se rapportent à la vie des populations rurales. Plusieurs thèmes et éléments sont essentiels, tels les chœurs, les fleurs ou la représentation des gens de la campagne eux-mêmes, comme le laboureur par exemple. Motivy a prvky třeba srdíčka,
kytičky i osoby lidí, třeba oráč. Cet événement s'est tenu à l'occasion de l'anniversaire des 200 ans de la naissance de Yacoub Bursa, maître maçon, architecte et fondateur du fameux style baroque populaire en Bohême du Sud. Célèbre pour son approche ornementaliste mais aussi technique dans la construction des bâtiments villageois, il doit sa réputation d'artiste à son travail pionnier dans la décoration des façades des foyers ruraux tchèques à l'aide du stuc. La majorité de ses œuvres se trouve aujourd'hui au cœur du massif de la Šumava, entre les villes de Strakonice et Prachatice. Bursa a été l'inspirateur de nombreux architectes dans la seconde moitié du XIXe siècle, soucieux d'apporter un souffle de vie supplémentaire à ses lieux de vie et de travail. Pavel Boresh explique d'ailleurs l'importance de ces constructions dans la vie villageoise d'antan.
Ce sont des bâtiments qui se trouvent aujourd'hui dans la campagne, parfois dans la banlieue des grandes villes. Ils servaient de logement ou bien étaient une base pour les opérations économiques. Les lieux de travail appartenaient à un seul propriétaire ou bien étaient partagés entre des artisans qui vivaient dans le village ou dans les alentours.
Tout au long du week-end, des expositions ainsi que des parcours suivant les traces de ce folklore ont été proposés. Une manière de découvrir un certain nombre de ces joyaux de l'architecture vernaculaire. Bon nombre d'entre eux sont maintenant entre des mains privées. Si les propriétaires s'attachent souvent à la préservation de ces bâtiments, leur entretien s'avère parfois délicat selon Pavel Boresh.
Prenez par exemple le toit, la toiture traditionnelle de la dernière période de l'architecture populaire, utilisée des tuiles en terre cuite et le plus souvent en écaille. Mais aujourd'hui, c'est très difficile et très cher de se procurer ce genre de tuiles.
Le week-end prochain, Holašovice, le célèbre village de Bohême du Sud inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO pour la préservation de son architecture baroque populaire typique, s'apprête à accueillir ses traditionnelles fêtes folkloriques. L'objectif est de recréer l'ambiance des marchés ruraux du XIXe siècle en Bohême du Sud, notamment grâce à des démonstrations d'art traditionnel et d'artisanat. Une nouvelle occasion pour les amoureux d'architecture de partir à la découverte de ces bâtiments issus du folklore rural et d'observer leur extraordinaire sens de l'intégration de leur milieu naturel.
Il y a tout juste 5 ans, le musée de Josef Seidel, l'un des pionniers de la photographie tchèque, a été inauguré à Český Krumlov. C'est une véritable histoire de la photo qui est mise en place dans l'atelier Seidel, remanié en musée, ainsi qu'une véritable chronique de la région frontalière entre la Bohême, la Bavière et l'Autriche. Dans son fond, l'établissement abrite plus de 140 000 plaques de verre sur lesquelles l'histoire de la région et de ses habitants de la fin du 19e et du début du 20e siècle revit. Une rubrique historique préparé par Yaroslava Gisubelova.
Chapitre de l'histoire.
Lors des travaux de restauration de l'atelier Josef Seidel situé à la rue Linecka de Linz, non loin du noyau historique de Český Krumlov, on a retrouvé l'équipement d'origine de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Près de 70 appareils photographiques et de grossissement d'époque encore en état de fonctionner, ainsi que 140 000 plaques de verre et épreuves négatives en celluloïd, albums, cartes de vue et clichés sont restés à leur place comme si le maître photographe avait quitté l'atelier un instant plus tôt. Le fonds de développement de Český Krumlov, qui a racheté en 2005 la villa aux héritiers de la famille, y a ouvert il y a 5 ans un musée. Miroslav Reitinger est son directeur.
L'atelier photographique Seidel est tout à fait rare, même à une échelle mondiale, grâce à son authenticité, la complexité de l'équipement photographique conservé et l'étendue des plaques photographiques retrouvées. On peut aujourd'hui admirer la villa entièrement restaurée jusqu'au moindre détail, ainsi que l'atelier photographique qu'elle abrite.
La villa de style Art Nouveau a servi d'atelier photographique depuis 1905 jusqu'en 1949. Josef Seidel y a travaillé jusqu'à sa mort en 1935. Ensuite, c'est son fils, František, qui hérite de la passion pour la photographie de son père, raconte le manager du projet, Petr Hudičák.
Les archives de Josef et František Seidel présentent la plus grande rareté de ce musée. Toutes les commandes réalisées entre les années 1884 et 1952 ont été inscrites sur un registre de clients, ce qui permet d'identifier les personnes photographiées. Ainsi, l'histoire des familles de Český Krumlov et de ses environs, plus ou moins éloignées, a été sauvegardée dans ces archives. De cette manière, Josef Seidel est devenu un chroniqueur singulier de la Šumava, ne serait-ce que pour avoir saisi les portraits de personnes qui devaient quitter en hâte le lieu, non seulement des Autrichiens, des Allemands, mais aussi des Tchèques qui, en partant, n'ont pas eu le temps de prendre avec eux des photos. Les archives du musée Seidel permettent aux descendants de ces personnes d'y retrouver leurs ancêtres sur des photos qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de voir depuis plus de 50 ans.
Le musée Seidel de Český Krumlov garde ainsi la mémoire de toute une culture. Au rez-de-chaussée de la maison, un film nous familiarise avec le personnage du photographe Josef Seidel. Né en 1859 en Bohême du Nord, il apprend le métier de photographe en Roumanie avant de gagner sa vie comme retoucheur photo professionnel à Vienne. Dans les années 1880, il fonde un atelier prospère à Český Krumlov et devient pionnier des techniques photographiques en Bohême. D'une part, il se spécialise dans les photoportraits, de l'autre, il saisit les beautés de la Šumava, toutes saisons confondues. Lorsqu'il meurt à l'âge de ses 76 ans, il laisse derrière lui une œuvre abondante d'environ 140 000 plaques photographiques sur lesquelles prédomine la région de la Šumava, ses habitants, sa nature, ses villages et ses monuments, aujourd'hui en partie disparus. L'équipement technique du musée photographique de Josef Seidel reporte le visiteur au temps où le courant électrique n'était pas encore transporté à Český Krumlov et où faire une image photographique était une vraie aventure. Petr Hudičák explique.
Josef Seidl postavil nejmodernější fotografický ateliér v jižních Čechách. Všem
L'atelier photographique édifié par Josef Seidl a été le plus moderne en son temps dans le sud de la Bohème. L'absence de courant électrique l'a toutefois obligé à utiliser la technologie de copiage à l'aide de la lumière. Dans une chambre noire, il a rempli la plaque d'une couche d'émulsion photographique sur laquelle il a ensuite projeté de la lumière naturelle pénétrant par un mur en verre dans la pièce voisine. Après plusieurs minutes, il est rentré dans la chambre noire pour y terminer le processus chimique.
S ním místnost a vrátil do temné komory, kde dokončil celý ten chemický proces.
L'atelier Seidl faisait partie des 10 premiers éditeurs de cartes postales dans le pays. Avec les plus de 120 000 exemplaires de cartes aux motifs différents émis en l'espace d'une seule année. Les plus prisées ont été les images du mont Spitzhark, des lacs de la Chumava, et celles des sommets éloignés des Alpes, saisies du haut de la montagne Kleť. Josef Seidl est aussi parmi les premiers photographes tchèques qui se servent de la technique d'autochrome, un procédé de restitution photographique des couleurs breveté en 1903 par les frères Lumière. Or, Josef Seidl s'est inscrit dans l'histoire de la photographie, notamment en tant que chroniqueur de la Chumava. Les clichés retrouvés dans son atelier fournissent un témoignage précieux de toute une époque. Ils sont la mémoire d'une culture ayant forgé pendant des siècles le caractère de cette région frontalière. Des photographies de Josef Seidl paraissaient dans une revue publiée par la population de langue allemande de la Chumava, ainsi que dans d'autres périodiques locales. Aspect politico-historique de l'exposition au musée Seidl, la question allemande et l'évolution d'après-guerre dans l'ancienne Tchécoslovaquie. Comme le note Petr Hudičák sur les destinées mouvementées de la famille Seidl, il est possible de documenter la difficile période de la première moitié du XXe siècle, la mise en œuvre des décrets Beneš ainsi que les représailles du régime communiste.
On byl zakladatelem německé sociální demokracie v Čechách.
Fondateur de la social-démocratie allemande en Bohème du Sud à Český Krumlov, Josef Seidl faisait partie d'une délégation d'Allemands de Bohème du Sud qui, en 1919, a négocié avec le premier ministre d'alors Karel Kramář sur la détermination des Allemands de cette région. Kramář a alors répondu qu'il ne s'agissait pas d'une question d'importance. Il est fort probable qu'une approche pareille ait eu une influence, bien qu'indirecte, sur les événements de la fin des années 1930.
Nějaký vliv, i když rozhodně ne přímý, na události z konce 30. let.
Quant au fils de Josef Seidl, František, il a été arrêté en 1939 par la Gestapo. Après la guerre, il a échappé à l'expulsion des Allemands des Sudètes en continuant à gérer l'entreprise familiale. Le coup de Prague intervient négativement dans ses activités. En 1949, il est contraint de remettre à la police d'État les clichés de son père ayant servi à la production des cartes postales. La fin inévitable de l'atelier Seidl arrive en 1953. À l'occasion du 5e anniversaire de l'inauguration du musée de Josef Seidl à Český Krumlov, Petr Hudičák rappelle les objectifs du projet ainsi qu'une distinction attribuée dans le cadre d'un concours national des musées.
C'est à la fois le 5e anniversaire depuis l'attribution du prix du ministère de la Culture pour le meilleur projet de l'année, Gloria Musealis 2009. L'objectif de notre projet était de présenter l'œuvre de Josef Seidl ainsi que l'histoire de la vie d'une région où se croisaient et coexistaient des siècles durant les cultures tchèques, allemandes et autrichiennes. Il faut se féliciter de ce que la maison de Josef Seidl de 1905 complètement restauré et retrouvé son importance d'origine.
Les archives de Josef Seidl comprenant les clichés effectués entre les années 1884-1953 n'ont pas encore livré tous leurs secrets. En numérisant les vieilles plaques photographiques, des historiens ont retrouvé des photos inédites du président Edvard Beneš, celles de familles expulsées, ainsi que des prises uniques montrant des soldats français internés pendant la Seconde Guerre mondiale dans des camps de travaux forcés sur le territoire tchécoslovaque. Ces photos sont actuellement examinées par l'Institut pour l'étude des régimes totalitaires.
Vous avez pu visiter le musée de Josef Seidel en compagnie de Yaroslava Gisubelova. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce programme qui vous était présenté par Pierre Ménian. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos articles sur le site www.radio.cz/fr. À très bientôt. Ahoy.